Les 3 et 4 août, Clermont-l'Hérault va vivre à l'heure de la minéralogie, de la paléontologie, de la volcanologie. Et pour nous parler de ce 10e salon et mini-expo des volcans de l'Hérault, à la salle Georges Brassens, 16 boulevard Paul Bert, de 9h à 18h, dont l'entrée est gratuite, nous avons des passionnés réunis dans ce studio. Des passionnés de minéralogie, de volcanologie et de toutes les thématiques qu'on va aborder lors de cette émission. Autour de cette table, donc, Claude Lesclingant, président de l'émission. Bonjour Claude.
Bonjour.
Nous avons également le vice-président de l'association, Émile Joly. Bonjour.
Bonjour.
Et un autre passionné, Jean-Luc Potier. Bonjour.
Bonjour Samuel, bonjour à tous.
Voilà, donc comme je disais, vous avez découpé cette émission en trois thématiques. Les trois thématiques pour vous qui vous passionnent aussi. On va voir un peu vos parcours, voir vos passions et voir ce qui va être exposé lors de cet événement. Commençons par vous, donc, Monsieur Lesclingant, président de l'association locale du groupe minéralogique Clermontais. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre association ?
Tout d'abord, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Il y a bientôt 50 ans que je me passionne pour les sciences de la Terre et particulièrement pour la minéralogie et surtout pour le volcanisme. J'ai découvert le volcanisme par hasard et par un concours de circonstances. En 1976, je me trouvais à la Bourboule en Auvergne avec mon épouse et ma fille pour une cure thermale. Ma rencontre avec des scientifiques et spécialistes en volcanologie du secteur a été un déclencheur. En 1978, ça a été pour moi le baptême du feu, au sens propre, avec l'ascension du Stromboli, accompagné des membres de l'équipe de Maurice Kraft, une équipe de renommée internationale. S'en est suivi, en 1986, ma participation active à la création de l'Association volcanologique européenne. Cette association culturelle regroupe des amateurs mais aussi des professionnels et permet de suivre l'activité des volcans du monde. Mon implication dans cette association européenne m'a permis de rencontrer, d'échanger et de m'acculturer avec des membres des équipes Taziev et Kraft. S'en est suivi ma rencontre avec Arun Taziev à Colombes lors d'une conférence et ma passion a pris naissance définitivement à partir de là. Ensuite, destination volcan, région de Naples sur les champs phlégréens, puis le Vésuve, la Sicile avec l'Etna, les îles éoliennes avec Lipari, Vulcano, puis le Stromboli que j'ai gravé une vingtaine de fois. Aujourd'hui, je poursuis mes connaissances scientifiques que j'essaie de diffuser autour de moi, particulièrement avec Jacques-Marie Bardinzeff, professeur et docteur d'État en volcanologie. Comme vous l'avez évoqué, je suis président du groupe minéralogique Clermontais depuis une quinzaine d'années. Il s'agit d'une association loi 1901 orientée en trois disciplines et je les cite, la minéralogie, la paléontologie et le volcanisme. J'ai rejoint l'équipe en place en 2000 dès mon arrivée dans l'Hérault. Elle est aujourd'hui composée d'une trentaine de membres, tous amateurs et passionnés.
Effectivement, on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités précises de votre association ?
L'activité est constituée à la fois par une approche théorique et par une approche pratique sur le terrain. Après avoir déterminé le choix du lieu à prospecter, on se retrouve sur le terrain avec l'outillage adapté, marteau, burin, boîte de rangement, équipement de sécurité et autres. À l'issue, des ateliers d'études et d'échanges sont organisés autour des découvertes.
Et donc, vous organisez des activités aussi pédagogiques. Vous me parliez tout à l'heure que vous faisiez en gros de la vulgarisation scientifique à travers ces sorties ou ces ateliers. Donc, comment est venue votre passion pour le volcanisme ?
Oh, la réponse, elle va être très courte. Le véritable déclic a été ma rencontre avec l'équipe d'Arun Taziev.
Que vous avez côtoyé combien de temps ?
Oh, Arun Taziev, personnellement, pas trop, parce qu'il n'était pas souvent sur le terrain avec nous, mais enfin, des membres de son équipe, surtout son adjoint François Luguerne. Okay. c'est ces gens-là, en fait, qui m'ont passionné et qui m'ont, disons, aidé beaucoup dans ce que j'ai appris par la suite.
D'accord, des hommes qui ont participé au savoir que vous avez aujourd'hui et avec qui vous avez été sur plusieurs expéditions, comme vous nous le disiez tout à l'heure, à travers le monde.
Tout à fait.
Sur votre programme d'invitation donc au Salon de la minéralogie des fossiles des 3 et 4 août à Clermont-les-Moreaux, vous avez prévu aussi également une mini-exposition sur le thème du volcanisme de l'Hérault. Quelles en sont les raisons ?
Elles sont très simples, les raisons. Le département de l'Hérault, quoi qu'en disent les habitants, qui ne le savent pas hélas tous, a été un département où le volcanisme a sévi, et même très fort. Ce volcanisme occupe une place importante dans la géologie de notre département, puisque, évidemment, comme il s'est éteint il y a 700 000 ans, plus personne maintenant en parle, c'est quand même un peu plus vieux que ce qui s'est passé en Auvergne. Mais cependant, je vais citer des noms rapidement que les gens connaissent, les volcans de la chaîne de l'Escandorgue, qui est longue d'une trentaine de kilomètres au nord du département. J'ajoute les volcans du sud des Roltais suivants, Agde, Port-Tiragne, les Monts Ramus, les Baumes, le Céressou, Perret et bien d'autres encore. Et j'oubliais le pourtour du Salagou. Lorsque nous effectuons des conférences et des expositions sur ce thème, il apparaît clairement que le public est très demandeur d'informations à ce sujet. Du coup, j'ai décidé de communiquer sur le volcanisme de la région en quelques photos lors de notre salon que nous organisons les 3 et 4 août à Clermont-les-Roux.
Ce qu'il faut savoir aussi, pour les auditrices auditeurs, vous me disiez qu'il y en a peut-être qui n'étaient pas au courant que tout est basé sur les volcans, sur la volcanologie, notamment aussi le site du Salagou. On n'a pas tous les jours l'occasion de se pencher sur cet aspect-là de notre territoire, les roches rouges.
Disons, en parlant de ce volcanisme, il apparaît très clairement autour du Salagou, puisque ne parlons que des couleurs, le Salagou, il y a du vert, il y a du bleu et il y a du noir. Le noir, bien entendu, c'est ce qui reste de nos volcans, c'est-à-dire la plupart du temps, le reste des coulées basaltiques, qui viennent de très loin, qui viennent des volcans de l'Escandorgue. Voilà. Alors, la richesse, après, elle se fait avec l'érosion. Il est bien entendu que le site du Salagou, actuellement, s'il n'y avait pas eu le volcanisme, le site ne serait pas du tout joli.
Oui, d'ailleurs, vous avez aussi écrit plusieurs thèses à ce sujet où vous êtes confronté, on va dire, à vos collègues et confrères volcanologues pour peut-être aussi dessiner d'autres esquisses liées au territoire.
Oui, bien sûr, parce que j'ai repris un petit peu le chemin à l'envers, ne connaissant pas du tout le pays. Et j'ai repris, moi, ce que je voyais d'après le paysage, avec les cartes du BRGM, bien entendu, qui sont un outil indispensable quand on travaille la géologie. Et je me suis aperçu, effectivement, que des coulées basaltiques qui étaient en place, elles étaient là, mais elles provenaient d'où ? Où étaient les édifices ? Et ça, c'était pas mentionné. Mais ce qui a été intéressant dans ma position, c'était de rechercher. Et je l'ai fait au moins sur 5-6 ans pour affirmer quelques thèses que j'ai d'ailleurs rédigées sur un livre qui relate tout ce qui se passe autour du Salagou, qui avait été écrit par Martin, et dont j'ai eu la chance d'avoir quelques pages pour justement écrire et mettre beaucoup de gravures de photos.
D'accord, vous avez vous-même aussi inspiré des scientifiques qui travaillaient aussi sur ces sujets-là ?
Oui, bien sûr, je n'ai pas travaillé tout seul, j'ai été quand même grosso modo éclairé par des professeurs de l'Université de Montpellier qui sont en retraite à l'heure actuelle, M. Bousquet et M. Dautria. Je les remercie encore très, très honnêtement parce qu'ils m'ont beaucoup aidé.
Sur quoi exactement ils travaillaient de leur côté, ces volcanologues ? Sur quoi vous avez pu les aiguiller exactement ?
C'est pas facile parce que les recherches, en fait, tout ça c'était marqué, mais c'est resté à l'université, c'est pas sorti dans le grand public ou quelques petits ouvrages qui sont quand même difficiles à comprendre. Et il faut les trouver, ce qui n'est pas toujours chose facile.
D'où ce besoin aussi de vulgariser, d'apporter vos connaissances,
voilà,
et de transmettre.
Voilà, c'était ça. Et je pense que c'est dommage parce que la jeunesse de l'Hérault, quand on fait des expositions et tout, on s'aperçoit rapidement, on leur pose des questions. Vous savez ce que c'est que des volcans ? Ah bah oui, mais vous savez que des volcans, il y en a ici dans l'Hérault beaucoup ? Ah, ils nous regardent. Non, ils ne savent pas. Certains ne connaissent même pas le Salagou, ils ne savent pas où il y a les coulées basaltiques qui ont fait la beauté du site. Moi, j'ai fait beaucoup de sorties avec les écoles au début que je suis arrivé. Maintenant, c'est un petit peu différent parce que les trésoreries pour alimenter les transports par car sont déficientes et les enfants ne sortent plus sur le terrain. Mais j'ai fait quand même quelques animations et ça me plaisait beaucoup de faire ça.
Oui, vous avez aussi été partenaire avec l'association Demain la Terre.
Oui, Demain la Terre, bien sûr. Et j'ai aussi travaillé avec Famille Rurale pour des sorties sur le terrain, pour les enfants surtout. Et ça, ben maintenant, ça se perd un peu. Et c'est dommage parce que les nouvelles générations, ben, ils ne sauront rien sur la géographie de leur département.
D'où l'importance de votre association. Et par rapport à ce salon et mini-expo des volcans de l'Hérault, donc les 3 et 4 août, où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Vous allez tenir un stand aussi?
Ben, j'ai sélectionné et puis j'ai fait ça relativement vite. J'ai fait des panneaux qui sont adossés, je pense, sur la scène, dans le fond, pour que tout le monde les voit bien. C'est surtout des photos avec, disons, ce qu'elles représentent, que tout le monde peut voir actuellement. Et donc, c'est l'intérêt un peu de cette présentation.
Très bien. Alors maintenant, nous allons passer à notre second invité de l'association locale Groupe Minéralogique Clermontais, le vice-président, donc, Émile Gély. Donc, on a évoqué rapidement la paléontologie. Et pour vous, qu'est-ce que donc que la paléontologie?
Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Il me revient donc d'évoquer avec vous la paléontologie. Mais avant, si vous voulez bien, je vais me présenter. Je suis Émile Gély, le vice-président et membre de l'association depuis une vingtaine d'années. J'occupe deux activités essentielles au sein de l'association. La première, je suis chargé des sorties sur le terrain, comme évoqué il y a quelques instants. La seconde, je contribue à l'organisation des ateliers de dialogue et d'échange qui font suite aux sorties que nous effectuons sur le terrain. Pour répondre à votre question concernant la paléontologie, on peut dire qu'elle est la science des fossiles, c'est-à-dire des restes d'animaux ou de plantes qui ont peuplé la Terre il y a des millions d'années et qui ont fossilisé. Le processus de fossilisation est simple à comprendre, mais extrêmement compliqué à réaliser. Et on peut demander des millions d'années avant d'aboutir. Pour l'expliquer rapidement, après la mort d'un animal et dans certaines situations très particulières de pression, de température et à l'abri de l'air, les tissus le constituant sont remplacés progressivement par des minéraux. D'un point de vue scientifique, les fossiles sont essentiels car ils fournissent des informations précieuses sur la vie et sur l'évolution des espèces, y compris de l'espèce humaine. Grâce aux fossiles, on peut reconstituer les différentes étapes de la vie avec les modes de vie, l'environnement et même la géographie.
Oui, c'est pour vous aussi une passion dès votre plus jeune âge.
Oui. Ah.
Bien, on va profiter de votre présence pour un peu voir quel type de fossiles est-ce qu'on peut trouver dans l'Hérault, même si vous me disiez hors micro qu'il y en a tellement, des dizaines de milliers, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Aïe, aïe, aïe. Donc vous nous avez fait une petite sélection de quelques fossiles.
Voilà. Alors notre département est un véritable musée géologique où l'on trouve une très grande variété de fossiles de toutes les époques, allant du début de l'ère primaire, il y a 600 millions d'années, jusqu'à l'époque début miocène, il y a 5 millions d'années. Vous comprendriez que l'on ne peut pas tous les citer tellement qu'il y en a. Mais je vais vous en citer quelques-uns que l'on peut trouver dans notre région. Pour les plus connus et dans le domaine de la fossilisation animale, je citerai par exemple les trilobites, qui sont de petits animaux qui ont vécu à l'ère primaire il y a 500 millions d'années et qui ont disparu il y a 250 millions d'années. Puis les ammonites, qui sont une espèce de mollusque qui a totalement disparu il y a 65 millions d'années. Il y a aussi les griffés. La griffée est une espèce d'huître fossile particulière qui ne se mange pas, bien sûr, et qui a totalement disparu à l'époque jurassique, il y a 180 millions d'années. Les coraux. Il est intéressant de savoir que la mer Méditerranée s'est installée, puis est repartie plusieurs fois dans l'Hérault au cours des temps géologiques. Elle s'est même presque complètement asséchée il y a 5 millions d'années, et pour l'humour, on pouvait marcher dans la Méditerranée. La mer ayant été présente à plusieurs reprises, on peut trouver du corail fossilisé à certains endroits de notre département. Des organismes, des poissons, des animaux qui ont totalement disparu, et je citerai par exemple les récentes découvertes d'un gisement fossilisaire exceptionnel à Cabrières, vieux de 470 millions d'années et qui fait actuellement la une des revues scientifiques mondiales. Je pense aussi à des œufs de dinosaures dans la région de Meze, une découverte exceptionnelle et dont le site constitue l'un des plus importants gisements paléontologiques d'Europe. Il y a 70 millions d'années, la région était occupée pendant une période longue de 10 millions d'années par différentes espèces de dinosaures. Des empreintes fossilisées de reptiles. Par exemple, au hameau de la Liode, près de Mérifon, on a répertorié sur une dalle qui date de 250 millions d'années 18 pistes de reptiles prémammaliens. Dans le domaine des fossiles végétaux, l'Hérault est particulièrement bien pourvu. Les bassins houillers de la région fournissent quantité de plantes fossiles qui ont totalement disparu, datant de l'époque carbonifère, soit il y a 300 millions d'années. Et j'arrêterai là, car la liste est longue, et je vous remercie pour votre attention. Merci.
Bien. Voilà un département très riche. Vous me disiez d'ailleurs que c'était un des départements le plus riches d'Europe en ce qui concerne les fossiles, la minéralogie.
Oui, oui.
Donc, dû à ce mouvement, c'est ça, des mers qui ont amené en surface, parce que la notion est importante, qu'on peut vraiment trouver en surface. Est-ce qu'on peut revenir justement sur cette notion de surface ?
Alors, en surface, comme à la dalle de la Liode, bien sûr, on trouve des empreintes de reptiles qu'on appelle les théraspidés, qui ont quand même vécu 50 millions d'années avant les dinosaures. C'était des animaux qui avaient un crâne synaspide, comme le nôtre, avaient 5 doigts comme nous, et vers la fin, ils avaient acquis palais secondaire dont ils pouvaient manger tout en respirant, ce que ne faisaient pas les premiers. Voilà.
C'est fou ça, ouais, c'est dingue que notre département soit si riche quand même. Et ça aussi, c'est quelque chose aussi que vous avez découvert, c'est ça, au fur et à mesure de vos années.
Voilà. Après, il y a aussi le carbonifère, les fougères géantes. Vous aviez des fougères qui ressemblaient à des arbres, qui faisaient jusqu'à 30, même presque 40 mètres de haut. Et à cette époque, vous y avez des animaux extrêmement grands, dû au taux d'oxygène, vu que la végétation était très luxuriante. Le taux d'oxygène avait presque doublé, de 21% actuellement. Il était passé à 35 et quelques pourcents. Et ces animaux, pour pouvoir résister, il fallait qu'ils soient grands. On a trouvé des libellules qui faisaient la manganera, qui faisaient des 70 cm d'envergure, des mille pattes qui faisaient entre 2 et 3 mètres de long. On a trouvé des araignées géantes, des scorpions géants fossilisés.
Tout au long de ces années, d'accord, de cette taille,
Puis après, après les époques ont changé, et puis ce gigantisme a disparu, quoi.
Oui, avec l'humain, la sédentarité.
Oui.
Aïe. Et on trouve toujours aussi donc, des fossiles aujourd'hui, c'est toujours possible de trouver comme ça des fossiles d'animaux, d'insectes.
D'animaux, c'est rare, il faut bien chercher. Hein. Ce que l'on trouve beaucoup, c'est les animaux... de la mer, quoi. Des gastéropodes, les ammonites, des céphalopodes, des huîtres, plusieurs variétés différentes, dont des huîtres géantes, les Ostrea grassissima, qui arrivent à faire 80 cm, les plus grandes, 1 mètre de long. On les trouve ici, là, dans le département.
Et j'aimerais revenir aussi sur l'expérience de Cabrières, qui a fait la une des journaux. Oui. Dans Le Monde, vous me disiez, où ils ont retrouvé des corps mous fossilisés.
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on pourrait déjà...
Ça avait déjà été fouillé, mais ils n'étaient pas perçus de le regarder avec des appareils comme des loupes binoculaires et des microscopes très puissants. Et ils se sont aperçus que c'était les corps mous qui s'étaient fossilisés. Ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel, quoi.
D'accord. Les corps mous, peut-être, pour
préciser. On a retrouvé les traces des intestins des animaux, les traces des yeux.
Ok, donc ça, c'était assez sensationnel. Donc, des recherches qui avaient commencé en 2018
oui.
et qui ont tout d'un coup émergé en 2023.
Voilà, voilà.
D'ouvrir aussi ces informations au plus grand nombre, quoi.
Et ces sites-là, il n'y en a pas 50 000 sur la planète.
Ouais.
Il en existe 3-4 au maximum.
Aïe, aïe, aïe. C'est fou. Donc on est, voilà, donc une richesse encore une fois
ouais, ouais.
sans faute. Et c'est des scientifiques aussi que vous connaissiez
Ces gens-là, non.
Non, d'accord, ok. Et comment ça se passe aussi pour vous? Comment vous faites ce travail de collectage? Est-ce que vous allez voir beaucoup d'associations? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment au sein de l'association que vous échangez autour des fossiles
Là, on se documente beaucoup. On étudie sur les trouvailles qui ont été faites par d'autres scientifiques. Et puis on fouille et on ne trouve rien. Et jusqu'au jour où c'est le jackpot, comme on peut dire.
Vous aussi, vous êtes présent sur des sorties, sur des ateliers.
Ah oui, tous les... Moi, je m'occupe dans l'association des sorties. Okay. Nous faisons une sortie tous les dimanches de chaque mois.
D'accord.
Sauf le mois de juillet et août où il y a trop de circulation, où il fait trop chaud.
Ouais, il fait trop chaud.
Et nous allons sur différents sites minéraux, fossiles.
Okay.
Voilà, et nous étudions les strates et nous récoltons les fossiles et puis nous les étudions après, plus tard, sous binoculaire, pour voir les moindres détails, quoi.
Et ce sont des ateliers sortis aussi ouverts à tous, sur inscription?
Oui, voilà. Voilà.
D'accord, ok.
On prend les gens qui veulent bien venir, qui sont intéressés par les sciences de la Terre. Notre cotisation, c'est 20 euros par an.
Okay, oui.
Et nous faisons une dizaine de sorties dans l'année.
Ok, très très bien. On peut emmener les enfants aussi?
Oui, c'est à partir de 12 ans, les enfants.
Ah bien, d'accord. Oui,
parce
que trop
on va des fois dans...
D'accord. Ouais, vous allez des fois sous terre, c'est ça? Ou comment ça?
Sous terre, non.
D'accord, non. C'est plutôt... Il faut avoir des bonnes chaussures de marche.
Voilà, il faut bien être équipé, souliers de sécurité, chaussures de sécurité, lunettes, casque. Et on travaille avec un marteau et un burin.
Ah,
pour rester
génial.
Dans les normes, on ne fait pas comme certains qui ont des marteaux pneumatiques et compagnie.
Ok.
Ça, c'est vrai, strictement interdit.
Ah oui, pourquoi? Ouais, parce que ça abîme trop la matière.
Voilà, ça détruit trop. C'est plutôt ceux qui veulent récolter pour vendre. Que nous, on fait ça que pour la connaissance, quoi, pour enrichir la connaissance.
Ok. Donc c'est regarder et des fois justement prendre un peu de matière aussi. Vous savez quelle pierre vous pouvez prendre, récupérer.
Voilà,
pour tout le monde. Et c'est fou parce qu'il y a des vrais passionnés aussi de fossiles, de minéralogie à travers tout le territoire. J'ai rencontré aussi quelques personnes dernier temps qui m'ont évoqué ces sujets.
Oui.
J'avoue que je suis aussi... Ben voilà, c'est très bien qu'il y a cette passion qui est là et dont on voit qu'il y a plein de gens comme ça qui vont marcher aussi sur les terres du département de l'Hérault pour aller à la recherche et approfondir leurs connaissances, quoi.
Voilà. Le seul truc qu'on regrette, c'est surtout des personnes âgées qui s'intéressent. La jeunesse, moins, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la relève qui suive.
D'accord, et pourtant les étudiants en université, ils viennent des fois quand même avec vous sur les sites ou...
Des fois, pas souvent.
Ouais, d'accord, ok. Donc là, on fait un appel aussi, un appel à tous les jeunes aussi qui aimeraient s'immerger dans cette aventure.
Voilà, on est là pour leur montrer, les conseiller.
Et vous, sur ces stands, enfin sur ce salon, encore une fois, Emini Expo des Volcans de l'Hérault, les 3 et 4 août, vous allez être présent aussi?
Oui, je serai présent, oui, je contribuerai à la marche de à 100% du salon, et voilà, je m'occuperai un peu de tout ce qu'il faut faire, quoi.
Ce sera aussi l'occasion de vous rencontrer.
Et rencontrer les gens, leur expliquer, voilà, échanger avec eux.
Et est-ce que vous-même, vous avez participé à des ouvrages
J'ai été cité, mais c'était avant.
D'accord, ok.
Ouais. C'était avant que je fasse la paléontologie et les fossiles.
Ok.
Parce que j'ai fait de l'archéologie et je suis passé dans des bouquins tels que Science Vie, Sélection du Rural Digest, mais c'était il y a quelques années en arrière.
D'accord. Maintenant, on est là, on est dans le vivant, en ouais, présence ouais. du public, avec les gens autour de vous. Ce que je peux comprendre. Ben, c'est très bien. Donc, c'était Émile Joly, vice-président.
Dansez, nous dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, dansez, tout est perdu. Au bord du cratère, sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, danser, tout est perdu. Danser, petit raffin. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser, au bord du cratère. Ce charme discret, ce calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, tout est perdu. Danser, petit graffin. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser.
Donc pour cette dernière partie d'émission, nous allons maintenant nous intéresser davantage à la minéralogie avec voilà, un autre passionné spécialiste, Jean-Luc Potier. Est-ce que vous pouvez nous parler de la minéralogie de l'Hérault.
Oui, bien sûr Samuel. Avant de présenter ce thème important, bien sûr, vous en doutez, à mon tour, je vais quand même me présenter rapidement. Donc, je suis Jean-Luc Potier, je suis un des tout petits derniers à avoir intégré l'association minéralogique Clermontaise et j'en suis vraiment ravi. En effet, je suis membre depuis seulement 2 ans, donc c'est vraiment tout récent. Même si mon histoire personnelle m'a permis d'aborder ce thème déjà depuis très longtemps. Donc je vais aborder la minéralogie non pas avec des connaissances purement scientifiques, parce que ça risque de devenir très technique, et je ne vais surtout pas aborder une liste sans fin des minéraux de la région, parce qu'il y en a énormément également, c'est peut-être moins que les fossiles, mais il y en a quand même énormément. Mais je vais plutôt aborder la minéralogie sous un angle différent, en vous parlant de mon expérience personnelle, que je vis donc avec le groupe minéralogique Clermontais, donc, dont mes prédécesseurs se sont déjà présentés, et qui va me permettre bien sûr de développer avec ce biais la minéralogie.
D'accord, quelle est votre expérience à ce sujet ?
Avant de vous parler de mon expérience et de mon vécu, je voudrais quand même aborder le territoire héraultais, le territoire du département, qui dispose d'un patrimoine géologique exceptionnel. Donc on l'a déjà évoqué par mes prédécesseurs, mais je tiens à le souligner également dans le domaine de la minéralogie. Et pour un débutant que je suis, puisque je m'assimile débutant, c'est un atout important pour la compréhension des phénomènes géologiques. L'Hérault permet d'aborder tous les aspects de la minéralogie. Alors, le sous-sol possède une diversité importante de roches, permettant de suivre en continu, je dis bien en continu, puisqu'on a, on a en surface 540 millions d'années. Oui, je dis bien 540 millions d'années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les aires géologiques sont représentées par des roches en surface et des roches de grande qualité. Les paysages sont riches en couleurs, avec des terrains volcaniques noirs, et notre président l'évoquait tout à l'heure. Au lac et dans la vallée du Salagou, des rufes rouges. Alors, je précise que les rufes ne sont pas des roches volcaniques. Ce sont des roches sédimentaires qui ont été colorées par l'oxyde de fer. Wow. On s'imagine souvent que ce sont des roches volcaniques, mais non. Également à Mourez, peut-être que vous connaissez l'endroit, mais on y trouve des cirques dolomitiques blancs. On peut ajouter également des roches avec des concrétions splendides de calcite et d'aragonite. Donc pour un débutant, le jardin héraultais est un jardin minéralogique passionnant. J'évoquais le rouge, j'évoquais le blanc, j'évoquais le noir. Donc c'est un jardin volcanique, minéralogique, passionnant, riche en couleurs de toutes sortes.
Oui, vous êtes là depuis peu d'années, mais vous aviez déjà connaissance de ce territoire héraultais dans votre vécu.
Oui, je m'intéresse. Alors, je viens dans l'Hérault depuis 45 ans, donc je m'y suis quand même intéressé. Et les quelques études que j'ai faites dans ce domaine il y a déjà bien longtemps, je les consolide aujourd'hui. Je suis en retraite, donc j'ai plus de temps. Et j'ai pris à cœur de me rebaigner dans mes amours premières.
Oui, vous étiez déjà baigné par un milieu universitaire alors ?
Oui, j'ai débuté. Bon, j'ai fait de la biologie. En biologie, à l'époque, on faisait aussi de la géologie. Et moi aussi, comme mon président, j'ai fait une cure à la Bourboule. Alors ça, c'est un hasard phénoménal. J'ai fait mes 3 années de cure à la Bourboule où j'ai eu l'occasion, la grande chance de rencontrer le géologue de la Bourboule à l'époque.
D'accord. Qu'est-ce que c'est des années de cure pour vous ?
Mes années de cure, c'est bien sûr la cure proprement dite, mais c'était à l'époque mes sorties avec l'équipe du géologue de la Bourboule. C'était ça la cure pour moi.
D'accord, ok. Qui sont restés aussi vos amis
Alors j'étais en contact très longtemps, mais ça c'était déjà il y a... Oui, j'ai eu des contacts étroits pendant longtemps, mais les années ont fait que certaines personnes ne sont plus là, forcément les distances ont été mises en place, établies, et les contacts sont pratiquement perdus aujourd'hui, oui. Voilà. Par contre, je les ai retrouvés avec le club minéralogique de Clermont-l'Hérault et j'en suis ravi.
Club qu'on pourra donc retrouver les 3 et 4 août, mais est-ce qu'on peut revenir justement un peu plus sur votre expérience ?
En effet, bien sûr. Je disais que je vais parler de la minéralogie en évoquant mon expérience personnelle depuis 2 ans. Donc, bien sûr, je vais parler de cette expérience pour répondre à votre question. Et disons que... Comment j'aborde la minéralogie ? Ben, en fait, c'est à la fois simple et parfois ça devient vite compliqué, mais ça démarre par une approche théorique qui suit une mise en application pratique. Alors voilà comment ça se passe. Des ateliers de travail sont organisés On l'évoquait déjà tout à l'heure, mais ces ateliers de travail permettent d'aborder la minéralogie sous l'angle de la théorie. Donc on aborde la composition des roches, l'origine, dans quelles strates on peut les trouver, à quels endroits on peut les trouver, etc. Donc nous choisissons une roche ou un minéral plutôt facilement accessible. Là, il faut pas creuser pendant et se faire mal avec le marteau et le burin. Non, on est bien sur des minéraux et des roches assez facilement accessibles de la région. Et nous nous posons les questions suivantes. Donc, comment l'identifier? Quelles sont ses caractéristiques? Quelles sont ses variétés? À quel endroit on peut la trouver? Dans quelle couche on peut le trouver ou la trouver? Ses origines, sa formation et aussi, accessoirement, à quoi peut-il servir pour l'homme? À partir de là, bien sûr, on va passer au côté pratique. On organise une sortie, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, une sortie qui va nous permettre d'identifier ce minéral dans son espace. Par exemple, lors des séances théoriques, donc là j'évoque le côté théorique. Claude Lesclingon, que vous avez entendu tout à l'heure, nous fait partager sa passion et ses connaissances pour le volcanisme et ses conséquences sur la constitution des roches donc volcaniques et magmatiques qui viennent de la profondeur de la Terre. Dès lors, une sortie est alors programmée permettant d'appréhender certaines roches. Donc je vais parler du basalte qui est une roche magmatique. On évoque la composition possible des minéraux et lorsqu'on y trouve des minéraux, on peut y trouver par exemple de l'olivine qui s'associe au basalte. De plus, et pour couronner le tout, alors ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, les sorties sont souvent vraiment de très très belles sorties ensoleillées, des randonnées ensoleillées, parfois à proximité des volcans. L'Hérault nous permet toutes ces vues splendides et qui nous apprennent aussi la géologie directe sur le terrain. Alors bien sûr, se posent alors les questions suivantes. Lorsqu'on arrive sur le terrain, quelles sont les différentes couches géologiques en présence? Donc ça c'est, on arrive sur le terrain, vous imaginez le schéma, on est entouré de certaines couches géologiques, et on se pose la question, est-ce qu'on est en présence de strates fossilifères? Est-ce qu'on va y trouver des fossiles ou est-ce qu'on est dans des strates qui ne sont pas fossilifères? C'est un exemple, hein. Alors, lorsqu'on est en présence de strates fossilifères, là où on peut y trouver des fossiles, bien sûr, les connaissances d'Émile Gély que vous avez entendu tout à l'heure prennent le relais et nous abordons dans une approche davantage orientée vers les fossiles de l'endroit où nous nous trouvons, bien sûr. Lorsque les sorties sont effectuées, on effectue bien sûr une analyse des échantillons qui ont été récoltés. Et lorsque les minéraux sont à peine visibles à l'œil nu, et c'est vraiment souvent le cas, on l'évoquait aussi tout à l'heure, nous les observons à l'aide de loupes binoculaires. Alors bien sûr, lorsqu'on les observe, les minéraux prennent une toute autre dimension et une coloration complètement différente. C'est fantastique. Alors pour conclure sur mon expérience personnelle et mon vécu depuis 2 ans, j'ai beaucoup apprécié ce mode de fonctionnement qui associe à la fois la théorie et le terrain dans ce magnifique département. Et je le dis vraiment, je le pense vraiment, où le respect de la nature est une exigence absolue. J'en profite pour remercier notre président, Claude Lesclingon, et notre vice-président et l'ensemble des membres. Je les salue également, puisque j'ai l'occasion d'avoir la parole. Et un grand merci à tous.
Oui, un grand merci à eux. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de tous les citer, mais il y a aussi il y a 30 membres, encore une fois, qui sont partie prenante de cette association.
Oui, alors je vais laisser la parole à notre président pour évoquer, peut-être faire un petit retour en arrière sur l'association et parler des membres de notre association. Voilà. Claude, est-ce que tu peux donner quelques mots là-dessus?
Les membres, bon, il y a le noyau, ce qu'on appelle le noyau dans l'équipe, c'est-à-dire des personnes d'un certain âge qui sont là depuis un certain temps et puis qui continuent à rester et qui continuent à travailler avec nous. Avec eux s'engagent d'autres personnes plus jeunes qui essaient, qui pensent qu'ils vont être intéressés. Mais le problème est, c'est que bien souvent, ça ne dure pas si longtemps que l'on souhaiterait, nous. Parce que maintenant, tout a un peu changé, vous avez besoin de savoir le nom de quelque chose, vous sortez votre téléphone de votre poche et puis vous avez réponse immédiatement, vous avez l'application du BRGM, je l'ai, moi je trouve que c'est bien pratique, mais vous avez l'application du BRGM sur l'écran et vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez sur l'immédiat tout en y étant. Voilà. Alors bien sûr, ce monde évolue. Et puis, après, c'est une question de formation de formation, disons, à l'école, la géologie, la géographie et tout ça, qui n'est plus ce qu'elle était de notre temps. Je pense que ça, alors là, ça nous dépasse un peu et malheureusement, on n'y peut rien. Mais c'est dommage parce qu'un département comme le nôtre, qui est si intéressant au point de vue géologique, et que nos jeunes ne s'y intéressent pas pour plusieurs raisons d'ailleurs, même plusieurs débouchés, c'est dommage.
Oui, le vivant, défendre le vivant, toujours quoi. La transmission, le savoir, l'écoute pour la recherche de notre territoire, un territoire voilà, qui aussi est labellisé de UNESCO, comment on pourrait dire ça, qui est défendu par l'UNESCO.
Ben, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est engagé, on avait l'intention et c'est bien engagé de créer un géoparc. Mais le département de l'Hérault est tellement riche que ce n'est pas une portion du département qu'il va falloir remonter. C'est quasiment le département en entier. Mais c'est tout un autre honneur pour le département, mais pour l'administration, c'est moins pratique. Et tout ça, après, c'est de discussion, c'est de l'administration et tout ça. Enfin, toujours est-il que nous, on a commencé à travailler justement sur les premiers éléments avec des associations comme Demain la Terre pour pouvoir, marquer tout notre patrimoine géologique, qu'il soit volcanique, qu'il soit géologique, etc., etc. Tout ça, ça a été, on a donné quand même un bon coup de main, et surtout pour la protection des choses de la nature qui sont irréversibles. Nos volcans, malheureusement, ce qui en sortait, eh ben, c'est parti dans les gravières pour faire du granulat, pour faire nos autoroutes. Des volcans ont été quasiment rayés de la carte. La coulée basaltique qui allait jusqu'à Pézenas, en parlant de Néfiès, partant de Néfiès et tout ça, a complètement été exploité. Même, on a dû arrêter juste à temps l'exploitation d'un ancien lac de lave. Vous imaginez, en patrimoine géologique, ce que ça peut être, et volcanologique. On a freiné l'exploitation, mais c'est pas dit que ça reprendra pas un jour. Je sais bien que les intérêts financiers sont en jeu, et il est préférable d'aller chercher chez soi que plutôt d'aller chercher chez les voisins quand on a besoin de basalte. Voilà, ça c'est un faciès. Pour le patrimoine géologique, c'est autre chose.
Oui, d'accord. Donc l'association Groupe Minéralogie Clermontais participe à la sauvegarde du territoire.
Autant qu'on y peut.
Parce que là, par exemple, s'il y avait un géoparc, vous nous disiez que 112 communes seraient concernées. Donc il faudrait parler avec 112 maires. 112... Enfin, je suppose que vous parlez aussi avec beaucoup d'élus, justement, pour les sensibiliser à la richesse du territoire.
Tout à fait. C'est sûr que c'est quelque chose d'important. Mais je pense qu'il fallait le faire. Il fallait le faire. Que diable, la nature, les sites nous apportent quand même des richesses qui sont bien exploitées, à mon avis. Ben, il faut quand même en préserver au moins l'origine.
Oui, on parlait de la question de l'eau tout à l'heure, qui était aussi, on a organisé beaucoup de débats autour, mais voilà, organiser aussi des débats autour de tout ce qui nous entoure, des richesses, des fossiles, de la minéralogie, ce serait aussi important, quoi.
Ah oui, ben ça, l'eau, c'est un autre domaine, hein, l'eau, c'est un autre domaine, mais enfin, ne serait-ce que parler à l'arrivée de l'eau dans notre belle grotte de la Clamouse, là, c'est un phénomène fantastique, ça, au point de vue géologique. Toute cette eau qui nous vient du plateau du Larzac, là-haut, là, et qui arrive dans l'Hérault, là, à côté de chez nous, c'est quand même bien. Et puis, non seulement c'est bien, mais pour notre vie aussi, c'est l'alimentation en eau, et qui tient encore pas mal, même avec la pénurie qui commence à sévir dans notre région. Celle-là, le jour qu'elle sera arrêtée, que diable, on aura des sérieux problèmes à résoudre.
Ah là là, c'est justement aussi le pouvoir d'action des associations de pouvoir faire bouger les choses, on l'espère un tant soit peu, face en effet au danger voilà, industriel.
Eh oui.
Et on arrive déjà en fin d'émission. Comment on pourrait aussi inviter les auditrices, auditeurs qui nous écoutent à venir à ce 10e salon, donc Emini Expo, c'est le samedi et le dimanche, les 3 et 4 août, de 9h à 18h, l'entrée est gratuite, ça c'est très sympathique. Qu'est-ce que vous avez aussi envie de partager aux auditeurs qui nous écoutent?
Bah, déjà, l'intérêt, c'est que en minéralogie, par exemple, et en paléontologie, ce que les gens vont voir, c'est la suprématie de la catégorie que l'on présente. Nous, ce que l'on trouve dans l'Hérault, il y a des belles choses, en grandeur satisfaisante et tout, mais bien souvent chez nous, c'est du petit, la qualité n'y est pas toujours, que là, dans ce salon, pour les gens qui aiment les variétés, les cristaux, la couleur, les minéraux qui vont être présentés proviennent du monde entier. Et en qualité, c'est pas du, il n'y a pas besoin de microscope pour regarder la cristallisation. Tout est présenté. Et voilà l'intérêt de cette opération. Nous, on ne peut pas faire ça. On n'a pas les éléments.
Donc chacun apporte, on va dire, sa collection et le partage aux spectateurs présents ?
Non, c'est des spécialistes qui viennent de présenter les pierres. On n'est pas dans une opération de, par exemple, échange, les bourses d'échange, ça s'appelle. Nous, ce n'est pas du tout ça. C'est une opération, c'est des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, qui en font le commerce, bien entendu, mais c'est des minéraux qui viennent du monde entier. Hein. On peut y voir des émeraudes, par exemple, certainement, et on peut y voir aussi des belles zéolites qui viennent sur les basaltes de l'Inde, mais avec des grosseurs et des cristaux qui nous font tomber un peu à la renverse par rapport à ce qu'on trouve chez nous, quoi.
Quand ouais. Même, vous êtes encore émerveillé même aujourd'hui.
Voilà, c'est l'intérêt hein, de cette exposition.
Et combien de spécialistes on pourra retrouver à peu près dans ce salon ?
Une bonne quinzaine.
Une bonne quinzaine, parfait quoi. Qui seront aussi présents les deux jours,
voilà.
On pourra rencontrer, prendre le temps.
Tout à fait, tout à fait.
Pour s'inscrire, s'informer, rechercher des informations, est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux ?
Ah ben sur les réseaux, moi par exemple sur Facebook, il faut évidemment aimer Facebook, tout le monde n'aime pas ce site. J'ai un site qui marche très bien et j'ai au moins pratiquement 400 à 500 personnes, c'est le volcanisme de l'Hérault. Avec des gens passionnés comme moi, mais des scientifiques qui viennent y mettre leur nez. Et ce qui fait que c'est plus de la vulgarisation, c'est des études systématiques avec photos et tout, et commentaires.
Ah, excellent, d'accord, une sorte de forum voilà. Ouvert à tout le monde.
Et ce site existe, je crois, déjà depuis 5 ans. Hein.
Ok, excellent, d'accord.
C'est le volcanisme de l'Hérault.
Le volcanisme de l'Hérault, c'est très bien, c'est noté, j'espère que les auditeurs et auditeurs passionnés le noteront. Et sinon, à part donc, ce salon, donc, on peut vous retrouver les dimanches pendant tout l'été aussi.
Il est bien évident que notre association ne fonctionne pas les mois de juillet et les mois d'août.
Oui, vous disiez tout à l'heure en effet que parce qu'avec la
forte chaleur... Par rapport aux chaleurs, par rapport aussi, il y a beaucoup de touristes, les sites sont envahis quelquefois, et non, puis c'est pas intéressant. Par contre, on reprend contact avec les forums associatifs qui se déroulent au mois de septembre, et on reprend toujours, nous, c'est notre système, avec une sortie d'essai qui se fait fin septembre, et ensuite c'est les sorties mensuelles.
Ok, parfait. Donc comme ça, au moins, les informations sont dites et on pourra les retrouver sur les sites internet, s'inscrire et tout. On donnera aussi les contacts. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant de clôturer cette belle émission ?
On vous remercie d'avoir fait cette émission qui, on espère, intéressera vos auditeurs.
Merci à vous,
merci
pour l'écoute attentionnée de vos auditeurs et bien sûr, on aura le plaisir de se retrouver si vous souhaitez donc les 3 et 4 août pour répondre à vos questions et vous faire découvrir donc ces richesses minérales de l'Hérault, mais pas uniquement de l'Hérault.
Hélas.
Hélas, du monde entier. Eh bien, encore un grand merci, Claude Lesclinguant, président, Émile Joly, vice-président, et Jean-Luc Potier, membre très très actif. Voilà, et on vous retrouvera plus tard pour de futures émissions et en savoir plus sur la richesse, encore une fois, de notre département.
Merci à vous.
Merci, un grand merci.
Merci.